bien bonjour à tous. Alors, je ne dirai pas une deuxième fois, parce que c'est une marque déposée. Cela est réservé à Jamel. C'est une joie de nous retrouver encore ce matin autour de la parole du Seigneur. Et je n'avais pas prévu cette nouvelle que Mathieu vient de nous annoncer, mais je comptais vous parler ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler ce matin, de maladie, mais surtout, et c'est là la bonne nouvelle, de guérison, de l'œuvre de l'Éternel, mais aussi de notre attitude face aux difficultés, face aux épreuves, face aux souffrances par lesquelles nous passons. Et nous savons tous que chacun d'entre nous passe par des moments difficiles. Et quelle attitude avons-nous vis-à-vis de Dieu lorsque ces épreuves arrivent? Et c'est de cela que nous allons parler ce matin. Je vous invite à prendre la parole dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deux Rois au chapitre 20. Deux Rois, chapitre 20. Et nous lirons du premier verset au verset 11. Deux Rois 20, verset 1 à 11. Nous aurions pu lire aussi dans Ésaïe, chapitre 38. Vous remarquerez chez vous, quand vous iriez voir, que c'est exactement le même passage aussi. Donc, Deux Rois, chapitre 20, nous lisons. À cette époque, Ézéchias tomba malade. Il était prêt de mourir et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se rendit à son chevet. Il lui dit, « Voici ce que l'Éternel déclare. Prends tes dispositions, car tu vas mourir, tu ne te rétabliras pas. » Alors Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel en ces mots. De grâce, Éternel, tiens compte de ce que je me suis conduit devant toi avec fidélité, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. Et Ézéchias versa d'abondantes larmes. Ésaïe n'avait pas encore quitté la cour centrale lorsque l'Éternel s'adressa à lui en disant, retourne auprès d'Ézéchias, le chef de mon peuple, et dis-lui, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David, ton ancêtre. J'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir. Après-demain, tu pourras te rendre au temple de l'Éternel. Je prolongerai ta vie de 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, du roi d'Assyrie, et je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe ordonna qu'on prenne une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère du roi qui se rétablit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, « À quel signe reconnaîtrai-je que l'Éternel va me guérir et que je pourrai me rendre après-demain au temple de l'Éternel ?» Ésaïe lui avait répondu, « Voici le signe que l'Éternel t'accorde pour te confirmer qu'il accomplira la promesse qu'il vient de te donner. Veux-tu que l'ombre avance de 10 degrés ou qu'elle recule de 10 degrés ?» Ézéchias répondit, « Il est plus facile à l'ombre d'avancer de 10 degrés que de reculer. » Qu'elle revienne plutôt de 10 degrés en arrière. Alors le prophète Ésaïe invoqua l'Éternel qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur le cadran solaire d'Akaz où elle était déjà descendue. Amen. Prends tes dispositions car tu vas mourir, tu ne te rétabliras pas. C'est une parole dure. Et ce sont des paroles terribles que Ésaïe vient rapporter à Ézéchias, roi de Juda, de la part de l'Éternel. Ézéchias règne sur Juda d'environ 719 à 691 avant Jésus-Christ. Fils d'Akaz et contemporain des prophètes Ésaïe et Michée. Il vient d'obtenir, au chapitre 19, de la part de l'Éternel, à qui il a adressé ses prières, la délivrance du peuple de Juda. De la main de Sanchérib, le roi d'Assyrie, qui menaçait d'envahir son peuple. C'est donc juste après cette délivrance de Juda et cette défaite de l'armée assyrienne que Ézéchias tombe gravement malade, à tel point qu'il est proche de la mort. C'est donc dans un tel état, et alors même qu'il est au bord du gouffre, que l'Éternel, par la bouche d'Ésaïe, vient lui annoncer cette mauvaise nouvelle. « Prends tes dispositions, car tu vas mourir, tu ne t'y rétabliras pas. » Comment comprendre cela? Comment comprendre que Dieu, qui vient d'accorder sa faveur à Ézéchias, au chapitre 19, en éliminant son ennemi assyrien, vienne maintenant lui dire, alors qu'il est profondément malade, et comme pour l'enfoncer, ces mots terribles, « Tu vas mourir, tu ne te rétabliras pas. » Ézéchias était un roi connu pour sa piété. Il avait pour habitude d'aller dans le temple de l'Éternel à Jérusalem pour prier et lui offrir des sacrifices. C'est d'ailleurs ce qu'il avait fait lorsqu'il apprend que son peuple est sur le point d'être attaqué par le roi d'Assyrie. Ézéchias s'attendait donc aussi logiquement à ce que, face à sa maladie, l'Éternel intervienne en sa faveur. Il reconnaissait en Dieu le Dieu qui rassure, le Dieu qui délivre, qui protège, qui annonce les bonnes nouvelles. Or, dans cette situation, Ézéchias découvre plutôt un Dieu qui semble lui enlever tout espoir. C'est dur, tu ne te rétabliras pas. Il découvre un Dieu qui, visiblement, annonce la mort. Tu vas mourir. Il découvre un Dieu qui lui demande de prendre ses dispositions, c'est-à-dire de donner des ordres à sa maison, de préparer son testament, pratiquement, en quelque sorte, de régler les problèmes de succession et d'héritage, parce qu'il va mourir. Quel paradoxe! Alors qu'il vient de délivrer le peuple de Juda, Dieu, ce même Dieu, quelque temps plus tard, condamne presque à mort son roi malade. Dieu aurait-il changé? N'est-il plus le Dieu de délivrance, le Dieu de paix, le Dieu de l'espérance? Comment comprendre cela? Qu'est-ce que Dieu veut nous faire voir dans ce passage? L'une des choses à comprendre ici, c'est que le Dieu qui a accordé la délivrance au peuple de Juda et le Dieu qui semble ici condamner Ézéchias est le seul et même Dieu. Dieu n'a pas changé entre la délivrance de Juda et la maladie d'Ézéchias. Dieu reste et demeure le Dieu de délivrance, le Dieu de l'espérance, le Dieu de paix, le Dieu de guérison. Car c'est ce même Dieu qui nous dit dans Jérémie chapitre 29 au verset 11 « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cependant, s'il est vrai que Dieu reste le même Dieu bon en toutes circonstances, il n'en demeure pas moins que face à la souffrance et face à nos difficultés, Dieu attend de nous une attitude, un comportement, une conduite bien précise qui aura pour effet de déclencher le processus de délivrance qu'il a préparé pour nous. Et c'est parce qu'Ézéchias a eu cette attitude que Dieu attendait de lui qu'il a été délivré et guéri. Alors s'il faut sortir un enseignement de cette situation d'Ézéchias, Ils nous conduisent à dire ceci. Face à ta souffrance, conduis-toi de telle manière que Dieu t'accorde la délivrance qu'il t'a promise. Quand tu es plongé dans tes difficultés, dans ta maladie et dans les souffrances qui ne manquent pas dans nos vies, Dieu attend de toi une certaine attitude, une certaine sagesse, une certaine conduite qui lui permettra de déclencher la promesse qu'il a faite à ton égard. Face à l'épreuve, conduis-toi de telle manière que Dieu accomplisse le plan qu'il a prévu pour toi. Dieu nous promet de bonnes choses. Dieu nous promet la délivrance, la guérison, la paix, la joie, la vie, le salut. Mais pour entrer dans cette promesse, il a besoin de nous entendre. Il a besoin de nous voir. Et c'est peut-être parce qu'il ne nous entend plus et qu'il ne nous voit plus que nous avons parfois le sentiment que cette promesse ne s'accomplit pas pour nous. Alors la question est celle-ci. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ta souffrance, dans tes difficultés, et même dans tes joies, Dieu t'entend? Est-ce qu'il te voit? Dieu dit à Ézéchias, au verset 5, « J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je te guérirai. » Que dis-tu à Dieu et que lui montres-tu aujourd'hui? Chers frères et sœurs, mon but est donc ici de montrer que si Dieu nous laisse parfois passer par le spectre de la souffrance, et s'il nous met parfois à l'épreuve, ce n'est pas par sadisme, ni par cynisme, c'est parce qu'il veut déclencher en nous une attitude qui lui permettra de réaliser le plan qu'il a prévu pour nous. Et ce plan, contrairement aux apparences, ne peut être qu'un plan de paix, de délivrance, de guérison et finalement de salut. Alors, je souhaite répondre avec vous ce matin à ces trois questions. La première est celle-ci. Quelle attitude Dieu attend-il de nous face à la souffrance? Deuxièmement, quelle est véritablement la promesse que Dieu a faite pour nous? Et cette promesse est-elle encore visible aujourd'hui? Au vu des épreuves et des difficultés par lesquelles nous passons, est-ce que nous voyons cette promesse? Est-ce que nous la touchons aujourd'hui? Et le troisième point reviendra tout simplement à reprendre cette question d'Ézéchias dans le passage. À quel signe pourrions-nous reconnaître réellement que la promesse de Dieu s'est accomplie pour nous? À quel signe reconnaîtrai-je que je suis guéri? La première chose à dire ici, c'est que Dieu attend de nous deux attitudes principales pour déclencher la promesse de délivrance, cette promesse qu'il a faite pour chacun d'entre nous. Et ces deux attitudes sont ici la prière, la soumission ou l'obéissance. La prière et la soumission. Revenons un peu à la prière d'Ézéchias. Si on la regarde en profondeur, l'attitude du roi, alors qu'il est très affaibli, alors qu'il est sur le point de mourir, alors qu'il vient d'être littéralement assommé par cet oracle de mort que Ésaïe vient lui annoncer, Ézéchias, plutôt que de se laisser abattre ou de maudire Dieu, trouve encore la force d'adresser une prière à l'Éternel. Belle attitude qui nous montre l'importance de la prière, surtout en temps difficile. Qu'aurions-nous fait à la place d'Ézéchias, plongés dans les mêmes conditions tragiques? Aurions-nous trouvé la force de prier? Quelle aurait été notre attitude envers Dieu face à une telle souffrance? Ézéchias applique ici, des siècles et des siècles avant, ce que l'apôtre Jacques nous conseille dans son épître, au chapitre 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Et ici, le roi malade prie. Il crie à Dieu. Plutôt que de se plaindre, il prie. Le verset 2 nous dit, Ézéchias tourna son visage du côté du mur et pria l'Éternel. Il tourne son visage contre le mur pour être, en quelque sorte, en intimité avec Dieu, pour être seul avec lui et ne pas être perturbé par quoi que ce soit. Quelle attitude avons-nous avec Dieu quand nous sommes dans la souffrance? La question se pose, parce que c'est souvent dans ces moments-là que nous nous détournons facilement de Dieu. Au lieu de nous tourner vers lui, parfois nous nous détournons de lui. La tradition en Israël était de tourner la tête du côté du mur pour s'adresser à Dieu. Ça nous rappelle encore aujourd'hui le mur des lamentations. Au pied de ce mur se trouve une place étroite où les Juifs ont coutume d'aller se lamenter sur la ruine de Jérusalem. Il est probable que cette coutume date déjà du Moyen Âge. Mais ce qui est le plus important à retenir ici, c'est que le roi Ézéchias prie dans sa douleur. Il s'adresse à Dieu malgré l'oracle qui vient d'être prononcé contre lui. Alors, que peut-on retenir de cette prière d'Ézéchias? Ce qui est intéressant ici, c'est que le roi Ézéchias commence par un mot, une locution qui peut nous interpeller aujourd'hui. Il commence sa prière en disant « De grâce », verset 3, « De grâce ». Cette expression veut dire « par pure bonté ». Il invoque la grâce de Dieu dans un contexte où nous sommes dans l'Ancien Testament, où tout était encore lié à l'obéissance à la loi. Mais il invoque la grâce ici. Ézéchias posait déjà, mine de rien, les prémices de l'ère de la grâce à venir. Même si après ce terme, il va invoquer ses bonnes œuvres comme ce qui justifierait l'intervention de Dieu en sa faveur. Après avoir imploré la grâce de Dieu, sa bonté et sa miséricorde, Ézéchias va poursuivre sa prière en évoquant ses œuvres et sa bonne conduite, comme étant des arguments suffisants pour que Dieu intervienne en sa faveur. Il évoque sa fidélité au Seigneur, son intégrité et ses bonnes œuvres. Or, ce qu'Ézéchias ne sait pas encore, c'est que Dieu intervient non pas au mérite, non pas pour les œuvres accomplies, mais déjà à cette époque-là, par la grâce. Ézéchias dit à Dieu, au verset 3, « Éternel, tiens compte de ce que je me suis conduit devant toi avec fidélité, d'un cœur sans partage, et que j'ai fait ce que tu considères comme bien. » Ézéchias pense ici que ses œuvres suffisent pour que Dieu ait un regard favorable pour lui. Il pense pouvoir mériter la faveur de Dieu par ses œuvres, oubliant que la fidélité au Seigneur et d'autres actes comme l'application à célébrer un culte dans le temple de Jérusalem faisaient partie des exigences même qu'on imposait au roi à cette époque-là. Pour être crédible, un roi devait être fidèle à Dieu et il devait gérer le culte dans le temple de Dieu à Jérusalem. Voilà les prérequis. Ézéchias, bien que faisant preuve de piété, n'a donc pas de mérite à évoquer sa fidélité au Seigneur, ici comme argument valable. Ça faisait partie des prérequis d'un roi, même si beaucoup ne s'y sont pas pliés. Mais ce qui est important, et ce que cela nous évoque, c'est que nous ne pouvons pas nous prévaloir de nos œuvres pour réclamer une quelconque faveur de Dieu à notre égard. Tout ce que Dieu fait pour nous, il le fait par pure grâce. Ézéchias demande à Dieu de tenir compte de ses œuvres, comme si Dieu ne les avait pas vues. Il les a vues. Mais ce n'est pas pour cela qu'il intervient en sa faveur. L'apôtre Paul va dire des siècles plus tard dans cet épître aux Éphésiens chapitre 2 verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cependant, en plus de la prière, Ézéchias va poser un autre acte. Il va adopter une deuxième attitude qui, me semble-t-il, a fini vraiment de convaincre Dieu. Ce sont les pleurs d'Ézéchias. Ézéchias pleure devant Dieu. Le roi pleure. Grand roi qu'il est, il pleure. Sachons montrer nos larmes à Dieu lorsque nous sommes en souffrance. Le passage au verset 3 nous dit « Et Ézéchias versa d'abondantes larmes. » Pleurer, c'est un signe d'abandon de soi. C'est un symbole d'humilité et d'humiliation et de totale soumission devant la grandeur et la toute-puissance de Dieu. Pleurer devant Dieu, c'est reconnaître que nous dépendons entièrement de lui. Et c'est cette attitude de soumission et de reconnaissance que Dieu attendait aussi d'Ézéchias. Il versa d'abondantes larmes pour montrer à Dieu sa tristesse, son affliction, sa détresse, sa douleur. Dieu a besoin non seulement d'entendre nos prières, mais aussi de voir nos larmes, non parce qu'il serait un Dieu sadique qui prendrait plaisir à nous voir souffrir et pleurer. Dieu demeure bon, mais parce que nos larmes et nos prières le touchent au plus profond de lui-même. C'est un Dieu de compassion qui réagit à notre souffrance. Quand Dieu entend les supplications de ses enfants, quand il voit les larmes de ses enfants, il agit en leur faveur. Alors ne cessons jamais de prier. Ne rentrons pas, ne retenons pas nos larmes devant Dieu lorsque c'est nécessaire. Paul nous encourage dans ce sens. Éphésiens chapitre 6, verset 18, il nous dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. » Prier et pleurer devant Dieu n'est pas signe de faiblesse, mais un acte de foi et de reconnaissance de la grandeur de Dieu. Parfois, nous n'osons pas prier. Parfois, nous n'osons pas laisser éclater nos sentiments et nos émotions devant Dieu. Mais nous oublions que nous avons un Dieu de compassion qui n'attend que cela, qui n'attend que ça, de nous entendre, de nous voir, de voir nos larmes pour nous porter secours. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire à Ézéchias. Les versets 4 et 5 nous disent « Ésaïe n'avait pas encore quitté la cour centrale lorsque l'Éternel s'adressa à lui en disant « Retourne auprès d'Ézéchias, le chef de mon peuple, et dis-lui « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu de David. » Ton ancêtre, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Je vais te guérir. Quand Dieu entend nos prières, quand il voit nos larmes, il intervient en notre faveur. Alors, on pourrait penser que Dieu a changé d'avis. Entre la déclaration initiale qui promettait la mort à Ézéchias et ce verset 4 qui dit « Je vais te guérir ». Mais Dieu n'a pas changé d'avis. Le vrai projet de Dieu était de guérir Ézéchias. Mais avant cela, il attendait de la part d'Ézéchias une certaine attitude. Il attendait que, face à cette souffrance, face à cette terrible nouvelle, Ézéchias crie à lui, qu'il le prie, qu'il s'épanche devant sa face. Bref, qu'il lui montre à quel point il pouvait encore compter sur lui malgré l'épreuve. Par sa prière et par ses larmes, Ézéchias a répondu exactement à ce que Dieu attendait de lui. Voilà pourquoi Dieu a déclenché le processus de guérison. Dans sa douleur, Ézéchias s'est conduit de telle manière que Dieu déclenche le projet de guérison qu'il avait pour lui. Dieu a vu ce qu'il voulait voir, les larmes d'Ézéchias. Et il a entendu ce qu'il voulait entendre, sa prière. Voilà pourquoi il a intervenu en sa faveur. Et cela nous parle à nous aujourd'hui aussi. Quand on se trouve dans la difficulté, Dieu veut nous entendre. Il veut voir nos larmes, si possible. Il veut une certaine attitude de notre part. Une attitude de foi pour accomplir ce qu'il a prévu pour nous. Combien de fois nous nous sommes détournés de Dieu. Lorsque nous étions en difficulté, lorsque la tempête est venue, nous nous sommes précipités vers d'autres dieux. Nous nous sommes détournés de lui. Et en le faisant, nous nous coupons de la promesse qu'il a prévue pour nous. Et voilà pourquoi parfois nous ne la voyons pas. Alors, quelle est véritablement la promesse de Dieu pour nous? Et cette promesse, peut-on encore la voir aujourd'hui? Nous passons tellement par des difficultés, des souffrances, il n'y a pas que ça. Mais c'est une réalité. Et parfois, ces souffrances nous brouillent et nous aveuglent à tel point que nous ne voyons plus cette promesse, nous ne savons plus où elle est. Peut-on encore la voir aujourd'hui? Une fois qu'Ézéchias a fini de prier, une fois qu'il a fini de verser ses larmes, Dieu a ouvert pour lui une liste de promesses. Et la première promesse que Dieu fait à Ézéchias, c'est la promesse de guérison. Et ces promesses remettent l'espérance au cœur même de la vie d'Ézéchias. J'ai pu relever dans ce passage quatre promesses qui toutes reprennent, nous l'avons chanté tout à l'heure, à chaque fois, un attribut de Dieu. Première promesse, je te guérirai, le Dieu qui guérit. Deuxième promesse, je prolongerai ta vie de 15 années, le Dieu qui donne la vie. Troisième promesse, je te délivrerai, Dieu de délivrance. Quatrième promesse, je te protégerai, Dieu bouclier. On remarquera que Dieu dit ici au verset 6, « Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. » Il dit « à cause de moi-même » parce que la nature de Dieu, c'est de protéger. Il ne peut pas se renier. C'est un Dieu bouclier. Et à cause de David, pourquoi? Parce que la promesse de Dieu à la dynastie de David était de maintenir un prince de la dynastie à Jérusalem. À cause de David, à cause de sa fidélité et de sa piété exemplaire. Le Dieu des promesses se révèle donc ici. Et toutes les promesses qu'il fait à Ézéchias ici, il les fait aussi à chacun d'entre nous. Dieu nous promet la guérison, la vie, la délivrance, la protection. Chacun d'entre nous peut témoigner, j'en suis sûr, d'une ou plusieurs situations dans lesquelles il a pu expérimenter la guérison de Dieu, sa protection, sa délivrance. Moi, j'ai eu parfois à être guéri de maladies sans savoir comment ça s'est passé. Mais c'est la main de Dieu. Et ce qui est extraordinaire ici, c'est que Dieu promet et donne même au-delà de nos attentes et de nos demandes. Ézéchias voulait juste la guérison. Et Dieu lui accorde non seulement la guérison, mais aussi une prolongation de vie de 15 années. Verset 6, « Je prolongerai ta vie de 15 années. » Dieu n'est pas avare en promesses, ni en bienfaits. Il nous donne au-delà de nos attentes. C'est ainsi que Paul, parlant de notre Seigneur, dit dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, « Que la gloire soit à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Dieu promet donc plus que la guérison à Ézéchias, plus que la guérison, il lui prolonge sa vie. Et tout ceci n'a été possible que parce que le roi a eu face à sa souffrance une attitude qui a conduit à ses promesses divines. Cela veut dire que pour nous aussi, les promesses de Dieu sont visibles encore aujourd'hui et audibles. Nous pouvons les toucher dans nos vies. Malgré les difficultés, nous pouvons voir les promesses de Dieu à condition d'adopter la bonne attitude de foi, de prière et de soumission qui va nous faire entrer véritablement dans la promesse de Dieu. Comme Ézéchias, si nous voulons voir les promesses de Dieu s'accomplir dans nos vies si malmenées, il est important de nous conduire de telle sorte que Dieu, justement, déverse et déclenche le projet qu'il a prévu pour nous. Et cette conduite, c'est une attitude de prière de soumission, d'obéissance et de foi. Mais alors, qui dit promesse, dit réalisation de la promesse. À quel signe reconnaîtrions-nous que la promesse de Dieu s'est accomplie pour nous? À quel signe saurions-nous que nous sommes entrés véritablement dans la promesse de Dieu? Car beaucoup disent aujourd'hui, et nous l'entendons tous les jours, c'est bien les promesses de Dieu, c'est bien ce que vous nous dites, mais moi, je ne vois rien se réaliser dans ma vie. Comment savoir que Dieu a accompli sa promesse pour tous, pour nous? C'est la question qu'Ézéchias pose à Dieu au verset 8. À quel signe reconnaîtrais-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le troisième jour à la maison de l'Éternel? Oui, malgré les promesses et la parole de Dieu, Ézéchias veut quand même avoir un signe. Un signe qui lui permettra de savoir que Dieu l'a véritablement exaucé. C'est une question qui montre à quel point l'homme peut parfois être hésitant, voire même dubitatif face aux promesses de Dieu. Il nous arrive aussi de demander un signe à Dieu, c'est-à-dire un phénomène perceptible qui indique véritablement la vérité de la promesse de Dieu. Comme si Dieu pouvait mentir. Ézéchias, en demandant un signe à Dieu, a oublié que ce Dieu tient toujours ses promesses. Le psaume 138 au verset 2 nous dit « Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Dieu accomplit toujours ses promesses envers les hommes, quel que soit le temps que cela met. Mais nous sommes comme ça, nous les hommes. Nous voulons du concret. Nous voulons un signe pour s'assurer que ce qui a été dit sera fait. Gédéon, dans le livre des Juges au chapitre 6, malgré tous les efforts que Dieu a faits pour se faire reconnaître, a quand même demandé un signe à Dieu pour s'assurer que c'est lui qui lui parlait. De même, les pharisiens et les sadducéens, pour piéger Jésus, lui ont demandé un signe venant du ciel. Matthieu chapitre 16. Ézéchias demande ici un signe à Dieu. Un peu comme pour le défier, alors qu'il vient d'obtenir une série de promesses. Mais nous avons un Dieu extraordinaire. Car non seulement il n'en veut pas à Ézéchias de le défier, mais en plus, il va lui donner ce signe. Il va lui donner ce signe au verset 10. Dieu va faire reculer l'ombre de 10 degrés sur le cadran d'Akaz, le père d'Ézéchias. Alors le cadran d'Akaz, c'était un cadran solaire, un instrument silencieux et immobile qui indiquait le temps solaire par le déplacement de l'ombre d'un objet de forme variable. C'est sur cet objet que Dieu va agir. Il va reculer l'ombre de 10 degrés. Il n'y a pas véritablement d'explication à donner à ce signe. Et ce n'est pas mon propos ce matin. La seule chose qu'on sait, c'est que le phénomène fut exceptionnel et non pas naturel. Mais on peut cependant penser que Dieu a reculé l'ombre de 10 degrés pour montrer à Ézéchias, à travers une image extraordinaire, la prolongation miraculeuse de sa vie par un recul temporaire de la mort qui avait failli l'emporter. Voilà comment Dieu répond à la demande de signe du roi Ézéchias. Dieu peut aussi reculer pour nous l'ombre de la mort. Cependant, on peut penser que ce signe annonce déjà un autre signe qui va arriver du ciel 7 siècles plus tard. Ce signe qui sortira toute l'humanité de sa souffrance, des ténèbres et du péché. Ce signe, c'est Jésus-Christ, en personne, qui viendra en tant que Messie et Sauveur de l'humanité. Le véritable signe par lequel l'humanité tout entière reconnaîtra qu'elle est guérie et Jésus-Christ. C'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui seront le signe de notre guérison. Alors, à la question de savoir à quel signe reconnaîtrais-je que je suis guéri, nous pouvons tous répondre en disant « C'est par Jésus-Christ. C'est par sa mort sur la croix que je sais que je suis guéri. » Ésaïe, chapitre 53, verset 5, nous dit « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Voilà le signe. Mais tu ne peux véritablement expérimenter cette guérison que lorsque tu auras reconnu Jésus-Christ comme fils de Dieu, mort sur la croix pour tes péchés et tes maladies. Et c'est cette attitude, au final, que le Seigneur nous demande d'avoir, une attitude qui accepte le Christ comme celui qui est mort pour que nous ayons la vie. Car comme Ézéchias, vous savez, nous aussi, nous étions condamnés à mourir. Et Dieu, dans sa grande bonté, et dans son grand amour, nous a envoyé un signe du ciel, Jésus-Christ, son Fils unique. Pourquoi ? Et je sais que vous connaissez tous ce verset. On va le répéter ensemble. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà le signe. Jean chapitre 3, verset 16. La promesse de Dieu s'est donc réalisée. Elle s'est accomplie. Il y a 2000 ans, quand Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour mourir pour nous. Jésus est donc le signe que Dieu a accordé à l'humanité pour lui confirmer qu'il accomplira la promesse de salut qu'il lui a donnée. Et cette promesse s'est bel et bien accomplie aujourd'hui. Mais si nous voulons qu'elle se réalise véritablement dans notre vie, il suffit de croire en ce signe venu du ciel, en la personne de Jésus-Christ. Beaucoup de gens me diront, et je les comprendrai, je crois en lui. J'ai même cru, je continue même encore à croire, mais je ne vois rien arriver. Et je leur dirai, crois toujours, ne cesse pas de croire. Et je leur dirai, ne cesse pas de prier, prie toujours, ne cesse pas de crier à lui, et tu verras sa gloire et sa délivrance dans ta vie. Alors, à quel signe reconnaîtrai-je que l'Éternel me guérira ? Quand tu auras accepté Jésus comme ton sauveur, lui qui est mort pour que toi tu puisses vivre. Je sais que beaucoup d'entre nous ont déjà accepté Jésus. Je sais que beaucoup d'entre nous ont déjà vu ce signe. Bien sûr, nous sommes des anciens chrétiens, bien sûr. Dans ce cas, nous n'avons plus qu'à continuer sur ce chemin. Mais à ceux qui cherchent encore le signe, il est encore temps de le trouver par l'Évangile, par la parole de Dieu, par l'Église. Mais dans ta souffrance, dans tes épreuves, dans tes difficultés, conduis-toi de telle sorte que Dieu t'accorde la délivrance qu'il t'a promise en Jésus-Christ. Amen.
On va passer